extra classe.
Pendant mes études, je pense que j'étais plus auditif que visuel. Et toi, Régis, tu apprends comment ?
Écoute, je suis quelqu'un de très visuel, justement. Pour faire remonter en mémoire une information, j'ai besoin de visualiser la structure de la page, la couleur des titres, la taille des paragraphes. Mais c'est intéressant que tu dises « plus auditif que visuel ». Ça veut dire que ça n'est pas tranché, alors qu'une idée répandue veut que chacun ait son propre style d'apprentissage.
C'est comme cette idée d'être plutôt cerveau droit ou cerveau gauche, ou qu'on utiliserait seulement 10% des capacités de son cerveau. Les neuromythes, ce sont toutes ces croyances que nous entendons et parfois partageons sur le fonctionnement du cerveau et qui s'avèrent fausses, ou mal interprétées, ou encore trop vite généralisées.
C'est vrai que plus les neurosciences en éducation progressent et se diffusent, et plus les neuromythes prospèrent. C'est pour ça que nous allons poser la question des neuromythes les plus courus et les plus tenaces, et du comment trier le bon grain de livret.
Nous avons choisi d'en aborder certains en particulier parce qu'ils sont très présents chez les enseignants, les parents, les élèves, et parfois même ils se glissent dans la formation. Nos deux invités vont nous aider à les décrypter et à les déconstruire. Et nous allons aussi voir qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire en classe grâce aux apports des neurosciences.
Tanguy Saïbi, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur de sciences physiques et chimie dans un lycée en Moselle.
Tout à fait.
Hippolyte Gros, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences cognitives, enseignant-chercheur à l'INSP de Versailles et co-auteur du livre « Les neurosciences en éducation, mythes et réalités ».
Oui, tout à fait.
Alors pour commencer, la première question, le premier sujet qu'on aimerait vraiment évoquer, c'est la fascination autour des neuromythes. D'où ils viennent et pourquoi ça fonctionne si bien ? Peut-être en commençant par vous, Hippolyte ?
Oui, alors je pense que ce terme de fascination, il est vraiment très bien employé parce qu'on a remarqué ces dernières années qu'on observe une prolifération, si vous voulez, de disciplines qui vont être estampillées du préfixe neuro. C'est-à-dire qu'on va avoir des disciplines telles que la neuroarchitecture, la neurogastronomie, la neuroesthétique, la neurophilosophie, la neurolinguistique, la neuroéducation, la neurosagesse, la neuroméditation, etc. On voit qu'en fait, les neurosciences, si vous voulez, elles sont vraiment à la mode. Et on a une espèce de fascination qui s'est développée pour les neurosciences, pour cette idée qu'on va pouvoir comprendre le fonctionnement du cerveau et que ça va apporter des révolutions dans un peu tous les domaines disciplinaires possibles. Et cette fascination, finalement, elle se retrouve aussi dans le domaine de l'éducation, avec la prolifération en fait de croyances qui vont être plus ou moins rattachées aux neurosciences et qu'on appelle donc les neuromythes. Et en fait, on se rend compte que cette fascination pour les neurosciences, elle a un impact sur notre crédulité face à tout ce qui apparaît comme étant neuroscientifique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des études qui ont été réalisées sur la lecture d'articles de vulgarisation scientifique, par exemple. Et on se rend compte que lorsqu'un même article est accompagné d'une image de cerveau, on va avoir tendance à davantage lui faire confiance, à davantage attribuer du crédit au raisonnement scientifique qui est présenté dans l'article, simplement parce que l'article est accompagné d'une image de cerveau. Et en fait, on se rend compte qu'on a tendance un peu à mettre en pause notre esprit critique lorsqu'on a des images de cerveau, lorsqu'on nous dit que ce qu'on est en train de nous présenter est issu des neurosciences.
Est-ce que ce succès, ça ne vient pas aussi parfois, enfin ceux qui ont le plus de succès, est-ce que ce ne sont pas ceux qui vont un peu dans le sens du bon sens ou d'idées reçues qu'on peut avoir ?
Alors, tout à fait. En fait, le problème de l'éducation, si on peut dire, c'est que l'éducation, ça de spécifique que c'est un domaine sur lequel tout le monde a un avis. Et le bon sens, il est extrêmement présent en éducation. Tout le monde a une idée de ce que doit être la bonne éducation, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, si on était, je ne sais pas, en physique quantique, hein, où tout le monde n'a pas forcément un avis sur ce qu'est la bonne physique quantique, mais l'éducation, tout le monde a un avis. Et c'est là que va intervenir, si vous voulez, l'intérêt de la recherche pour essayer d'arriver à démêler le vrai du faux et démêler l'éducation qui est fondée sur des preuves, sur des choses qu'on a pu mettre en avant de manière un peu rigoureuse, et puis tout ce qui va révéler, justement, simplement du bon sens. Et c'est vrai que ce bon sens, il a tendance à aller en faveur des neuromythes qui vont être présentés, qui souvent vont faire appel à ce type de lieu commun.
Tanguy, de votre côté, en tant qu'enseignant, comment vous avez commencé à vous intéresser aux neurosciences et plus particulièrement aux neuromythes ?
En fait, j'ai simplement essayé de trouver des solutions pour optimiser mes heures de classe et le travail en général avec les élèves dans et hors la classe. Et ça fait plusieurs années que je me documente et que je m'interroge sur les meilleures choses à mettre en place, les meilleures stratégie à mettre en place pour mes élèves, pour qu'ils puissent apprendre avec moi, sur les périodes où je suis leur enseignant, mais également après qu'ils mettent en place des stratégies applicables toute leur vie pour apprendre et s'adapter aux différentes situations auxquelles ils seront confrontés. Et donc, dans mes lectures, j'ai effectivement rencontré des neuromythes et je me rendais bien compte dans ma pratique quotidienne qu'il s'agissait de mythes. Et en ce qui concerne le bon sens, je dirais que, dans ma logique en tout cas, dans le bon sens qui serait plutôt le mien et celui de beaucoup de collègues, on se rendait compte que ces neuromythes étaient réellement des mythes et qu'il y a beaucoup de choses qu'on avait mises en place qui fonctionnaient bien et qui vont dans le sens de ce que les neurosciences proposent, en tout cas dans le fonctionnement du cerveau, qui colle avec ce qu'on comprend du fonctionnement physiologique du cerveau.
Alors, on va commencer avec un premier neuromythe qui est, avec deux en fait, qui se rejoignent parce qu'ils sont autour de la question de la gestion de l'hétérogénéité et justement de ce constat que tout le monde peut faire, que tous les élèves sont différents. Alors, c'est autour des styles d'apprentissage et des formes d'intelligence. Alors, Hippolyte, ces deux neuromythes, ils sont très présents. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire quelle est la théorie à la base et puis ce qu'on en sait maintenant?
Alors, en fait, la théorie des styles d'apprentissage, je pense que c'est vraiment le neuromythe le plus répandu en France, qu'on retrouve en tout cas le plus souvent. Et c'est un mythe qui part d'une idée vraiment très, très noble et légitime, qui est que tous les individus sont différents les uns des autres, tous les élèves ont des spécificités, et donc il est nécessaire de s'adapter aux spécificités des élèves lorsqu'on est enseignant-enseignante. Et donc, s'adapter, ça veut dire faire de la différenciation, et cette différenciation, elle va passer par l'idée qu'on va respecter le style d'apprentissage de chacun des élèves, c'est-à-dire qu'il y aurait certains élèves qui seraient, par exemple, plutôt auditifs, c'est-à-dire qu'ils préféraient apprendre avec des supports auditifs, des supports audio. D'autres élèves qui seraient plutôt visuels, donc qui préféraient avoir des images, par exemple, pour apprendre. Et puis d'autres élèves qui seraient, par exemple, kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils auraient besoin de manipuler pour pouvoir apprendre. Donc il existe un certain nombre de déclinaisons de cette théorie, plusieurs styles différents. Mais ça, ce serait le fondement un peu de cette théorie-là, qui dit donc qu'en respectant le style d'apprentissage, donc la préférence des élèves, on va permettre d'optimiser les apprentissages et de faire en sorte que les enseignements soient maximisés, si vous voulez. Dans la réalité, si on regarde du côté de la recherche, parce qu'il y a un grand nombre d'études qui ont été menées sur ce mythe, parce que justement, c'est une théorie qui a été extrêmement prolifique, qui a été extrêmement populaire, qui a donné lieu à la création de beaucoup de méthodes, de matériel, etc., pour diffuser, si vous voulez, ces styles d'apprentissage. Lorsqu'on regarde du côté de la recherche, on se rend compte qu'en réalité, on a... pas d'études qui permettent de mettre en avant un effet bénéfique du respect des styles d'apprentissage. C'est-à-dire que les études qui sont faites de manière un peu rigoureuse, qui vont tester lorsqu'on prend des élèves de style supposé, par exemple, visuel, et qu'on leur donne une méthode d'apprentissage soit visuelle, soit auditive, eh bien, ces études-là, elles vont montrer soit que aucune des méthodes d'apprentissage n'a d'effet bénéfique particulier pour un style donné, soit qu'il y a une méthode d'apprentissage qui est bénéfique pour tous les élèves, indépendamment de leur style supposé. Et donc, on se rend compte que malgré la grande popularité de cette affirmation, on n'a aucune preuve qui permette de l'appuyer.
Tanguy, du côté pratique, puisqu'on est dans Parlons pratique, pour le coup, à l'éclairage de ce que peut dire Hippolyte, est-ce que c'est quelque chose que vous déconstruisez justement avec vos élèves ou les apports que vous pouvez leur donner pour passer outre ces neuromythes et la croyance que tel élève, moi je suis plutôt auditif, etc., qui dépasse leur premier point de vue sur ce point-là?
Oui, tout à fait. Je rejoins totalement Hippolyte là-dessus. Très clairement, quand les élèves ont l'impression d'avoir une méthode ou un style d'apprentissage particulier et personnel, ça les enferme dans ce style d'apprentissage et ça ne leur permet pas de profiter et de développer les autres styles d'apprentissage qui existent, qui peuvent évoluer en fonction de la discipline, en fonction de... temporellement aussi, simplement, dans la journée, dans la semaine ou dans leur vie. Et donc, ne pas leur proposer d'autres styles d'apprentissage, finalement, c'est une faute de notre part, je trouve, dans la mesure où on les enferme. Et mettre les élèves dans des cases, ce qu'on fait malheureusement un peu trop souvent dans l'école, ben ça enferme nos élèves. J'ai pu voir ça, enfin comparer ce qu'on faisait de nos élèves avec l'enseignement dans d'autres pays, dans lesquels on enferme beaucoup moins les élèves, on les stigmatise pas, en tout cas on les caractérise pas par un seul type d'apprentissage ou deux, mais en fait on leur laisse la place pour développer les autres styles d'apprentissage, ce qui amène beaucoup de confiance et de possibilités aux élèves, dans la mesure où si un style d'apprentissage devaient s'épuiser de leur côté, ou en tout cas les effets positifs devaient progressivement disparaître, ils se sentent capables rapidement de développer d'autres styles d'apprentissage et de retrouver de la confiance par ailleurs. Et effectivement, dans mes classes, j'ai dû faire un gros travail de déconstruction, parce que les élèves, en sortant du collège, ou ceux que je récupère en première en tout cas, sont persuadés d'être auditifs, d'être visuels, d'avoir une logique mathématique, ou à l'inverse, de ne pas en avoir et d'être définitivement hors-circuit au niveau mathématique, ce qui est complètement faux de mon point de vue, en tout cas en pratique, hein, parce que j'ai vu beaucoup d'élèves progresser entre le début de la première et la fin de la terminale, et poursuivre dans des parcours mathématiques en étant en MP étoile, finalement, en classe prépa en deuxième année. Ce qui montre bien que bon, le cerveau est en plastique, mais ça, c'est plutôt le côté Hippolyte que je laisserai gérer plus tard. Voilà, on peut apprendre énormément de choses, surtout à ces âges-là, à l'adolescence, où le cerveau est prêt à tout attraper.
Mais alors, ça serait quoi la bonne réponse à cette question de la différence entre les élèves ? Est-ce que c'est des modalités qu'on associe plutôt que de les séparer ?
Mais en fait, ce serait plutôt des modalités qu'on va associer. Dans ma pratique, en tout cas, on passe un premier trimestre à évoquer toutes les modalités d'apprentissage qui existent, qu'on peut mettre en place, en tout cas, dans le cours de sciences physiques. Et au fur et à mesure de l'année, et même des deux années, parce que je suis les élèves en terminale, les élèves se tournent vers des modalités qu'ils préfèrent, dans lesquelles ils se sentent à l'aise. Et régulièrement, je leur propose de changer un peu de modalité lorsqu'ils sont trop coincés dans une modalité, pour qu'ils continuent à développer d'autres modalités, d'autres styles d'apprentissage. Donc ils développent, ils sont rassurés par leurs points forts, par leur style d'apprentissage fort, mais ils n'hésitent pas à aller vers d'autres types d'apprentissage. En tout cas, je les pousse pour qu'ils continuent à développer une variété et un panel complet de styles d'apprentissage.
Il y a un autre, j'allais dire presque poncif pour dépasser même le côté neuromythe, le fameux « quand on veut, on peut, si tu veux, tu vas réussir ». La question de la motivation qui serait vraiment l'alpha et l'oméga de la réussite à l'école, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Hippolyte ? C'est vrai ? C'est un mythe ?
Alors, c'est vrai que « si je veux, je peux », c'est devenu un adage, et c'est une affirmation dont la validité aujourd'hui, elle est assez rarement remise en question. Et puis, c'est vrai que ça semble parfaitement intuitif, que la motivation permet, voire suffise, à optimiser tous les apprentissages. Dans les faits, dans le cadre des apprentissages scolaires, toutes les formes de motivation, en fait, ne se valent pas. On se rend compte que les théories de la motivation permettent de différencier différentes formes de motivation. C'est-à-dire qu'on aurait, dans la version la plus simple, disons, on aurait la différence entre la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est tout ce qui va être lié aux causes externes à soi. C'est-à-dire, par exemple, je suis motivé d'apprendre ma leçon pour obtenir une récompense. Je suis motivé d'apprendre pour ne pas être puni, par exemple. À l'inverse d'une motivation qui serait intrinsèque, qui serait plus autodéterminée et qui relèverait davantage de, par exemple, des valeurs personnelles qu'on va avoir ou même du fait qu'on est motivé pour l'action en elle-même. On a envie d'apprendre les mathématiques parce qu'on trouve que les mathématiques sont intéressantes. Et en fait, on se rend compte que selon la forme de motivation dans laquelle on va se situer, les impacts potentiels sur les apprentissages ne sont pas forcément les mêmes. Et en fait, on se rend compte que cette motivation plutôt intrinsèque, elle est davantage corrélée aux performances, à une meilleure focalisation attentionnelle, à une plus grande persistance dans les apprentissages, à un plus grand bien-être à l'école, etc. Pour autant, il est difficile, en fait, de faire la part des choses entre les élèves qui sont plus motivés et donc apprennent mieux, et les élèves qui, parce qu'ils ont des meilleures performances à l'école, se trouvent être plus motivés. Et en fait, il est assez difficile de savoir si la motivation a un impact, a même le plus petit impact, en fait, sur les apprentissages. La seule chose qu'on peut vraiment dire avec l'état de la recherche actuelle, c'est qu'il ne faut pas être amotivé. Et la motivation, donc la amotivation, avec un A attaché, ça désigne donc cette espèce de résignation dans laquelle certains élèves vont pouvoir se trouver parfois, et qui est un état où on est en absence totale de motivation, on est en désintérêt total, et ça, on se rend compte à travers les différentes études qui ont été menées que c'est quelque chose qui revient comme étant vraiment un facteur d'échec scolaire.
Tanguy, cette amotivation, c'est une chose sur laquelle vous travaillez avec vos élèves, comment est-ce que vous faites ?
Alors, à nouveau, je rejoins totalement Hippolyte sur son constat, du côté pratique en tout cas. Ce contre quoi nous devons lutter en tant qu'enseignants, c'est la motivation, amotivation en un seul mot, car c'est le frein qui existe, c'est le frein le plus fort qui existe pour les élèves aujourd'hui. Alors, la motivation en elle-même, comment travailler dessus et quel objectif je vise ? Mon objectif, c'est que les élèves soient simplement contents d'être là et qu'ils aient envie d'essayer. en classe, à la maison, qu'il y ait une continuité dans ce qu'on fait, qu'ils se sentent soutenus, accompagnés et qu'ils se sentent bien dans leur basket pour pouvoir travailler. C'est vraiment l'objectif que je vise. Alors, comment je travaille là-dessus avec les élèves ? Bien sûr que je note et je pointe du doigt ce qui peut être amélioré, moi, en leur donnant des pistes d'amélioration pour pas qu'ils se sentent désœuvrés par rapport aux soucis qu'ils peuvent rencontrer. Et je mets en avant le positif de chacun en leur proposant des pistes d'amélioration et surtout des objectifs à atteindre en essayant de viser des objectifs accessibles. Donc chacun aura des objectifs un peu différents, donc ça demande quand même beaucoup de travail de ma part et de la leur aussi pour prendre cette habitude, mais de toujours viser la petite marche juste au-dessus pour essayer de progresser. Et même en cas d'échec, on peut toujours mettre en avant des choses positives qui vont permettre aux élèves, en tout cas, de ne pas perdre la motivation et d'accepter l'échec, l'erreur, comme simplement une partie de l'apprentissage. Et ça permet un peu de recentrer un peu la discussion sur ce qu'est l'école et ce que sont les apprentissages.
Alors là, on entend hein, que entre la recherche qui travaille sur de nouveaux résultats et puis le terrain qui les interprète plus ou moins bien, il y a une question de culture scientifique, d'esprit critique, du côté aussi des praticiens à avoir par rapport à ces résultats en neurosciences. Hippolyte Gros, ça serait quoi la bonne façon de rapprocher la science et la pratique pour éviter cette prolifération des neuromythes ?
Alors, je dirais que de mon point de vue, il faut agir des deux côtés. Effectivement, du côté des professionnels de l'éducation, mais aussi du côté du monde de la recherche, parce qu'il y a aussi un travail à faire pour les personnes qui font de la recherche, pour rendre leur recherche plus accessible et pour limiter l'emballement médiatique lorsqu'on présente certains résultats qui ont l'air d'être phénoménaux et ne le sont pas forcément derrière. Alors, du côté des professionnels de l'éducation, effectivement, c'est utile de se construire une culture scientifique, hein, de savoir un peu ce qui se fait dans les neurosciences. Pour autant, c'est quelque chose d'assez coûteux, d'assez lourd. On ne peut pas demander à tout le monde de faire de la veille neuroscientifique sur son temps libre, hein, bien sûr. Mais on peut essayer de garder une forme d'esprit critique, en fait, ce que Dan Sperber appelle la vigilance épistémique, c'est-à-dire identifier certaines choses qui doivent mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'on est peut-être face à une méthode pas tout à fait légitime. Par exemple, c'est le cas lorsque on a une méthode qui va promettre monts et merveilles, donc une méthode miracle qui, avec 10 exercices de gym simples, va permettre de reconnecter les hémisphères du cerveau, de faciliter les apprentissages, d'améliorer le bien-être à l'école, etc. Donc, lorsqu'on nous promet trop, malheureusement, c'est souvent faux. Et c'est souvent quelque chose qui n'est pas forcément testé. Donc voilà, il faut se méfier du préfixe neuro qu'on utilise un peu à tort et à travers, et puis essayer d'avoir une démarche un peu critique où on va remettre en question ce qu'on nous présente. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter tout ce qui est issu des neurosciences ou des sciences cognitives, hein, parce qu'il y a des choses très bien qui sont produites, mais simplement s'assurer que lorsqu'on nous dit les neurosciences ont montré que, s'assurer d'où ça vient. Est-ce que c'est vraiment un ensemble de recherches qui ont été menées, un consensus scientifique qui permet d'établir quelque chose? Ou bien est-ce que c'est une personne dans son coin qui a développé une théorie et qui ne l'a jamais testée? Donc je dirais qu'à ce niveau-là, il y a des choses qui peuvent être faites. Et puis du côté de la recherche, évidemment, il y a des chercheurs qui essayent de créer des études qui vont être réellement conscientes de la réalité du terrain. Parce que faire une étude dans un laboratoire, ce n'est pas la même chose que faire une étude en classe. Et il est important que les chercheurs essayent davantage de faire des études qui soient réellement ancrées dans le terrain. Et donc, on essaye comme ça de faire des travaux en co-construction, en fait, où on va avoir des retours à la fois des professionnels de l'éducation et des chercheurs et chercheuses qui vont échanger pour essayer de proposer des nouvelles méthodes, les évaluer sur le terrain, les modifier ensuite, etc. Et on a ce système d'échange comme ça dans la recherche translationnelle qui permet de développer des choses un petit peu plus valables d'un point de vue pragmatique et scientifique.
Au-delà de ces éléments-là, très intéressant de recherche translationnelle, Tanguy, vous qui êtes au fait de ces questions, en tout cas qui vous y intéressez depuis un certain moment, est-ce que vous proposez aussi une diffusion quelque part horizontale, peut-être à vos collègues, aux parents d'élèves? Je crois que vous avez des actions en ce sens et je pense qu'il est intéressant de vous entendre là-dessus.
Et alors, ce qu'on propose dans l'établissement, c'est que dans le cadre de la Semaine de la Science, qui se prête bien pour ce type d'échange, on propose deux conférences, enfin, j'aime pas trop le terme parce que les participants sont actifs, en tout cas c'est un temps de travail, un temps d'échange en commun, d'abord avec les élèves. Donc on a ciblé les élèves de seconde, comme ça se passe au mois d'octobre, c'est au début de leur année scolaire. Et l'idée, c'est de déconstruire un peu tous ces neuromythes avec eux et juste de recentrer sur deux ou trois points à retenir. le rythme d'apprentissage qu'il devrait avoir, enfin qu'il pourrait avoir, et des stratégies qu'il pourrait mettre en place pour être efficace. Donc, très simplement, ce qu'on leur présente, c'est un peu le fonctionnement du cerveau de manière globale, pour qu'ils se rendent compte de l'intérêt de répéter les temps de mémorisation, de leur donner du sens. Voilà, ces petites choses-là qu'on fait en début d'année pour lancer un peu les élèves. Ensuite, les élèves qui ont besoin d'autres informations ont accès à des documents qui sont disponibles dans notre établissement. Et pendant cette même semaine, on propose le même type de conférences, d'échanges, pour les enseignants et pour les parents ou les adultes qui seraient intéressés ou d'autres élèves qui n'auraient pas participé aux conférences pour les classes de seconde. Et on échange un peu de la même manière, mais en proposant quelques pistes aussi pour les enseignants et en essayant de déconstruire chez certains les mythes qui sont, et c'est paradoxal, parfois davantage ancrés que chez les élèves. Les élèves sont assez souples et sont, en sortant de la conférence, sont assez ouverts au changement, alors que les collègues ont parfois plus de mal, surtout quand le message vient d'un enseignant, ce qui est mon cas. Ils ne me considèrent pas forcément légitime pour parler de ces questions-là. Comme Hippolyte le disait avant, le crédit qu'on a auprès des personnes auxquelles on parle est très important. Sachant qu'évidemment, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un scientifique comme l'Hippolyte, et je ne m'aventure pas trop dans des domaines que je ne maîtrise pas. Donc vraiment, je suis vraiment sur le concret, le quotidien en classe, pour essayer de donner juste quelques pistes, quelques outils pour aider les uns les autres. Et je pense que de ce point de vue-là, quand on arrivera à créer, c'est en train de se faire, davantage de ponts entre la recherche et les enseignants de terrain, on pourra avoir davantage peut-être de formation, en tout cas d'aide aux collègues qui ont envie de progresser et d'évoluer de ce point de vue.
Ce travail-là d'information auprès des élèves, il est assez intéressant. Hippolyte, j'ai lu que des élèves qui avaient une meilleure information sur le fonctionnement du cerveau avaient une attitude différente par rapport à l'entrée dans les apprentissages, plutôt qu'une idée un peu fixiste du cerveau, il est comme il est, quoi.
Alors oui, c'est vrai qu'il y a certaines choses certaines billes qu'on peut donner aux élèves qui peuvent les aider aussi, notamment à éviter la motivation ou à éviter la résignation dans certaines situations. Ne serait-ce que savoir que, par exemple, le cerveau, il a une certaine plasticité, il continue à apprendre tout au long de la vie, que l'intelligence, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui progresse, qu'on peut enrichir, plus on fait des études, plus on enrichit son intelligence, que c'est pas parce qu'on a une mauvaise note un jour en mathématiques qu'on n'a pas d'intelligence mathématique et qu'il faut abandonner cette intelligence-là, que la bosse des maths, c'est quelque chose qui n'existe pas. Tout ça, c'est un ensemble de choses qu'on peut indiquer effectivement aux élèves et qui peuvent les aider à avoir une attitude peut-être plus... à davantage persévérer dans leurs apprentissages, même lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Mais je pense que sur la question des élèves, c'est Tanguy qui sera le plus expert pour parler de ça.
Est-ce qu'ils ont une attitude différente, les élèves, après ces séances d'information ?
Je trouve, en tout cas, c'est ce que je constate dans mes classes où je fais des temps de travail équivalents, mais un peu plus pointus, un peu plus précis, avec des documents que je leur donne et des pistes que je leur demande d'explorer pendant les deux années où je les ai. Et effectivement, leur attitude est vraiment différente. J'ai l'impression, dans les classes dans lesquelles j'évolue, qu'on travaille en équipe, que je suis une partie de l'équipe, en fait, mais que je ne suis pas une espèce de pièce centrale ou supérieure qui va tout diriger et diligenter. C'est que les élèves deviennent de plus en plus autonomes. Ils le disent beaucoup, d'ailleurs, dans leur préparation d'entretien de grand oral, quand on a fait des oraux blancs, c'est ce qui sortait le plus, quoi. Qu'ils avaient progressé en autonomie, qu'ils se sentaient prêts pour le post-bac. Et honnêtement, j'en suis très satisfait parce que l'ambiance de classe est du coup très bonne. Pourtant, j'ai des élèves qui sont bons, exigeants, qui ont envie d'aller très loin dans les études. Et donc, ils pourraient être très exigeants envers l'école, mais en fait, ils sont complètement détendus dans le sens où ils ont bien compris qu'eux-mêmes étaient au centre de l'échiquier et que, voilà, que l'école, c'était, enfin, les enseignants, les adultes autour étaient là que pour animer les choses et qu'eux étaient maîtres de leurs apprentissages. Et du coup, l'ambiance de classe est vraiment très positive.
Alors, dans le temps de cette émission, on n'a pas pu balayer tous les neuromythes qui peuvent exister. On vous renvoie à l'ouvrage coécrit par Hippolyte Gros et plusieurs auteurs pour approfondir cette question. Tous les deux, on aimerait avoir une référence, une inspiration que vous aimeriez partager. Alors, je commence par Hippolyte.
Alors, sur la question des neuromythes, il y a beaucoup de gens qui font un travail remarquable. Je pense à, par exemple, Elena Pasquinelli ou Franck Ramu. Mais si on veut se focaliser sur les mythes éducatifs, je dirais que le travail d'André Tricot mérite vraiment d'être lu, d'être entendu, d'être partagé, parce qu'il fait un vrai travail, justement, en interaction entre la recherche et puis le terrain. Et il a proposé des travaux sur les mythes éducatifs, notamment sur les questions du numérique à l'école ou sur la question de l'innovation pédagogique. Donc je pense que, que c'est une référence qu'on peut tout à fait recommander.
Et vous, Tanguy ?
Moi, de mon côté, ce sera simplement un proverbe, celui que j'ai en fond d'écran, que je propose à mes élèves chaque année, c'est « Seul on va vite et ensemble on va loin ». Je trouve qu'il y a beaucoup de sens en classe et ça va dans le sens de tout ce qu'on s'est dit depuis le début de l'émission.
Alors ce que je retiens au terme de cette émission, Hélène, si je ne dis pas de bêtises, recherche translationnelle, approche épistémique, diffusion horizontale sur le terrain. En tout cas, c'est des premières pistes qu'on pratique, justement, avec lesquelles on ressort au terme de cette émission. Un grand merci, Tanguy Saïbi et Hippolyte Gros, d'avoir partagé vos pratiques et vos connaissances avec nous.
Merci à vous.
Merci à vous.
Neuromythes entre idées fausses et vrais leviers, un épisode Parlons Pratique préparé et animé par Hélène Audard
et Régis Forgione.
Enregistrement, montage et mixage,
Simon Gattegno.
Coordination de production,
Luc Taramini et Hervé Thury.
Directrice de publication,
Marie-Caroline Missire.
Retrouvez-nous sur extraclasse.réseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous.
Une production Réseau Canopée 2021.
Extraclasse.